midi.
On aime ce que vous faites.
All right.
Ah, mon indiscipline fait en sorte qu'on est encore dans le trouble, Pascal.
On est toujours dans le trouble avec toi.
Aimez-vous ça avec Denis? Aimez-vous ça la formule du pit stop 88-971-1021 où on est là, les trois à jaser? Ça tire à gauche, ça tire à droite. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est moins drôle.
On réfléchit, on philosophe, on fait de l'humour.
On garde ça. 418-971-1021, 418-971-1021.
On
garde
Denis? Est-ce qu'on met Denis out?
Est-ce qu'on garde Denis?
Denis est au balotage. Ouais. Que faisons-nous?
On flush ou on garde? On va y envoyer les résultats tantôt. 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Chroniqueur automobile, Mathieu Thomasin est au bout du fil. Salut, Matt.
Hey, bon midi tout le monde, ainsi qu'aux auditeurs.
Ouais, quelle bonne nouvelle pour 2025 pour les gens qui trippent sur les Jeeps. Le Jeep Wrangler qui va être manuel seulement avec le V6, puis le Jeep Gladiator qui va être automatique seulement avec le V6. Ça, ça fait pas ton affaire, mais pour ce qui est du Jeep Wrangler, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne conduite manuelle.
Oui, effectivement, mais je trouve ça un peu particulier le choix, parce que n'oublions pas aussi que c'est une décision qui est quand même assez particulière. C'est sûr que les puristes, ceux-là qui veulent aller vraiment en mode off-road, garder le contrôle, adorent la transmission manuelle, tandis que les gens bon, qui se promènent un petit peu plus en mode, disons, off-road urbain, sont beaucoup plus de style automatique par rapport au véhicule. Donc, la décision qu'en 2025, le Jeep Wrangler avec le V6 soit uniquement manuel. Puis en passant, c'est un moteur, moi, que j'aime bien. C'est un moteur qui a du couple, c'est un moteur qui a de la puissance. Je suis moins fanatique du 2 litres qu'on a comme choix aussi. C'est un 2 litres qui est turbo-compressé, qui, bon, ma foi, ne donne pas un exemple de raffinement là, vraiment exceptionnel. Mais il faut dire aussi que le fameux Pentastar a quand même fait ses preuves. Une fois de temps en temps, il faut quand même regarder le côté gasket au travers du temps. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que le penchant du Gladiator, lui, bien, devinez quoi? Ça va être le contraire. Donc, peu importe le choix qu'on va faire, ça va venir uniquement avec une transmission automatique. Donc, c'est une décision qui est très particulière, d'autant plus qu'on connaît que c'est des châssis partagés. C'est quasiment, on s'entend sur les mêmes lignes d'assemblage, mais on veut comme un peu brouiller ces cartes-là. Et je cherche encore comme il faut à trouver ça va être quoi la logique derrière ça. Mais on n'oublie pas aussi qu'on nous a confirmé qu'il allait avoir une version 4xe hybride, une variante du Gladiator aussi qui va se pointer. Donc, je vous rappelle qu'un Jeep Wrangler, c'est un toit souple ou encore un toit dur, c'est fermé. Mais le Gladiator, lui, c'est vraiment un pick-up, tout simplement, que tu peux enlever les portes, baisser le pare-brise, avoir du fun. C'est pour ça qu'on l'appelle Gladiator.
Il n'y a rien de mieux à mes yeux qu'une bonne conduite manuelle. Puis c'est sûr et certain que c'est un peu complexe là, quand tu as ton cellulaire d'une main puis le café dans l'autre. Là. Mais tu peux quand même t'en sortir sur l'autoroute. Moi, je veux dire, Pascal...
Mais t'es supposé en tout temps quand même avoir deux mains sur le volant. Là,
oui, c'est ce qu'ils disent.
Mettons même...
T'as-tu encore tes deux mains sur le volant, toi?
Moi, je conduis souvent à une.
Oui, on est pas mal tout le temps comme
l'autre
ça.
L'autre n'est pas sur le sel ou le café, mais elle est comme à côté, à gauche.
Okay. Hey, moi, je peux-tu vous faire une confession?
Vas-y.
Tu sais, vous le savez que je suis un journaliste qui aime garder ses véhicules extrêmement longtemps. Bon, j'ai la chance quand même d'en conduire une panoplie nouvelle, mais mon Toyota Tundra, il y a une section au niveau du volant qui est vraiment usée. Il y a quand même 15 ans. Là. Devinez, c'est où la section?
C'est où tu mets ta main?
Oui,
c'est
mais
bon,
devinez,
ça?
C'est, devinez, disons là, que vous voyez mon volant comme une horloge, devinez c'est où?
Moi, j'irais en bas à droite.
En bas à droite, non, vraiment pas. C'est vraiment complètement sur le haut. J'ai l'impression que je conduis en chillant un peu trop mon camion.
OK, tu conduis avec ton avant-bras, là, même pas ta main.
Mais ça, c'est quoi? C'est le gras de doigt qui fait que ça use plus facilement?
Bien, c'est sûr qu'il y a différents facteurs qui peuvent arriver. Premièrement, ben là, habituellement, je ne suis pas sale. Je regarde mon camion, il est quand même propre. Là. C'est quand même mon outil de travail. Fait que je ne pense pas être ben cochon. Mais c'est tout simplement des fois l'usure. Le fait de prendre le volant constamment au même endroit, le fait que tes mains se déplacent, ça ne paraît pas, mais ça devient un petit peu abrasif avec le temps. Et il y avait des finis qui étaient comme un peu plus plastifiés, un peu plus plastoches, moins cuirettes dans ces années-là. Et tu avais comme un genre de texturé qui ressemblait un peu à des écailles de reptiles là, quand tu regardais ça. Donc, le fait d'avoir tout le temps la main constamment à la même position après 15 ans a comme retiré complètement. Et c'est devenu lisse sur le haut du volant. Donc, je conduis un petit peu en mode... qui sait, en me donnant de l'attitude.
Quelqu'un qui me dit par texto, Matt, la raison que le Gladiator serait justement automatique, c'est parce que c'est presque la même affaire qu'un Ram 1500 ou des Ram... Ou des Ram 1500, ils font pas la clutch. Le Gladiator, oui, ça ressemble à un Wrangler, mais en dessous, c'est un Ram 155 classique.
Oui, puis tu sais, on va se le dire, il y a quand même une réalité qui nous frappe, c'est que les gens d'aujourd'hui ne conduisent plus manuel. Et on recherche aussi l'efficience énergétique. Le V6, c'est très gourmand au niveau du Wrangler. Donc, de l'offrir uniquement avec une transmission manuelle, ça va chercher un peu les puristes qui veulent vraiment avoir la machine bien adaptée pour aller hors route. En passant, j'enlève le fameux V8 de l'équation, là, parce que ça, c'est un Wrangler, je vous dirais, inatteignable quasiment là, côté monétairement. Cependant, oui, il y a tellement de pièces qui sont partagées que des fois, il faut voir le choix en dehors donc c'est juste du spec du Wrangler ou encore du Gladiator. Mais on va quand même probablement nous annoncer d'autres choses au travers du temps qui va sans doute répondre beaucoup aux besoins des consommateurs. Parce qu'on ne se le cachera pas, Marceau, à ta déception et à la mienne, les transitions manuelles n'étaient pas fort populaires. En forçant le choix un peu plus du 2 litres cette fois-ci, on cherche aussi à les économiser et à démontrer au niveau du manufacturier qu'on fait nos devoirs pour la consommation d'essence et ainsi payer moins de frais aussi avec les belles lois gouvernementales.
Sais-tu le fait que c'était complexe un peu plus de conduire manuel, la peur des gens de l'essayer, une histoire de souvent on a parlé que c'était plus les gars qui conduisaient manuel parce que je trouve que ça donne une belle chance dans la vie. Après, sur des moteurs comme des 4 roues, des skidoo, des 4x4, à moto, moi, j'ai vu la différence entre ma cousine et moi en ayant conduit manuel pendant la majorité de ma vie de conductrice, là, à quel point c'était plus facile.
Oui, mais écoute, moi, j'ai appris à conduire manuel sur un tracteur de ferme. C'était mes premiers contacts avec l'embrayage. Et je me rappelle aussi qu'il faut barrer le frein comme il faut parce que la porte de grange n'a témoigné. Là, si tu peux débarrer le frein gauche et droite, là, il y a quelqu'un qui avait laissé la barrure ouverte. Quand j'ai appuyé sur le frein, il y a uniquement la route droite qui a freiné. En tout cas, trêve de plaisanterie. Mais si on en revient au véhicule, oui, tu as raison. Nous, on a vécu avec t'es pas très vieille, Pascal, là, si je me trompe pas. Fait que je suis un peu surpris de ton affirmation.
D'avoir un conduit manuel?
Moi, ça a été
pathétique. Là. C'est le genre de mon père, là, mais j'ai eu mon auto manuel, elle était dans le cours. Mon père était pas là, il dit les clés sont sur le comptoir, il dit bye-bye.
Oh, intéressant.
C'était comme va sur le chemin, là, l'avenue Royale, puis arrange-toi. Tu vas sentir le point de friction. Bon, okay.
Ouais, mais en même temps, la génération d'aujourd'hui, les 4 roues sont rendues CVT, les tracteurs sont rendus hydrostatiques. Les motos, dernièrement, j'ai roulé des motos de Honda et on se rend compte qu'il y a des transmissions automatiques aussi. Devinez
ça
quoi?
Ça perd de son charme, ça veut dire.
Oui, mais c'est beaucoup plus rapide que n'importe quelle transition manuelle. Les véhicules ultra sportifs, exotiques, je ne cherchais plus le manuel là-dedans, il n'y a pas personne qui est capable d'être aussi rapide que ces transmissions-là, surtout qu'elles sont sportives. La performance et l'économie d'essence, c'est mieux quand c'est géré par une automatique. Est-ce que les puristes en nous peuvent crier au scandale? La réponse, c'est oui. Mais n'oubliez pas que la jeunesse d'aujourd'hui, un véhicule abordable, un véhicule d'accès, ils sont extrêmement rares. Là, présentement, du côté manuel, ne cherchez plus un Corolla manuel, ne cherchez plus un Civic manuel. Ça s'en va en mode disparition avec un grand D, là. Donc, automatiquement, les gens se tournent vers l'automatique. C'est une question de confort aussi, une question même au travers du temps que, bon, là, c'est pas mal, c'est quand même plus rare, mais les systèmes de sécurité qu'on devait ajouter comme l'avertisseur de collision, l'avertisseur avec intervention au niveau de la collision, ne fonctionnaient souvent pas avec une transmission manuelle. Donc, les manufacturiers avaient poussé beaucoup aussi d'automatique pour l'ajout de ces systèmes-là. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes rares voitures qui l'offrent et que le moteur va tout simplement caler lors de l'intervention d'un arrêt d'urgence, comme voire même, si je ne me trompe pas, Ford, les Mustang, c'est comme ça. Mais ça aussi, la tangente de la technologie a joué un impact majeur. Mais tu sais, n'oubliez pas, le manufacturier, lui, regarde les papiers, il regarde qu'est-ce qui vend le plus, c'est des transitions automatiques. À un moment donné, il va faire un choix tout simplement rationnel au niveau de la production pour pas non plus dépenser des milliards de dollars là, sur maintenir une technologie qui s'en va de moins en moins populaire.
Deuxième sujet, la Fiat 500 qui suspend la production. Il n'y aurait aucune demande pour le véhicule. Puis ça me rappelle des souvenirs sur la fameuse dame qui était tout le temps sur les réseaux sociaux en parlant de sa Fiat 500 qui est un fiasco. Oh, a dû faire mal aux ventes de Fiat 500 au Québec, elle, à ce moment-là. Là.
Écoute, oui, puis je me rappelle aussi de nombreuses fois la facture avait passé des reportages sur ces véhicules-là. On va se le dire, c'était des solides CIO. C'était des citrons ambulants, du côté fiabilité, du côté électronique, tout ce qui était plus ancien. Et ça le fait très mal à la nouvelle génération de Fiat qui s'est pourtant pointée avec des améliorations. Est-ce qu'on peut dire que ça va être fiable à long terme? Ben là, non, il faut quand même laisser le temps de vie. Mais ça, ça crée une blessure. Et tu le sais, hein, Marceau, c'est comme nos cœurs d'hommes. Quand on est blessé dans notre cœur, ça prend du temps avant de se reconstruire et de rendre un cœur plus solide. Donc, c'est la même affaire du côté confiance des véhicules. Comment?
Les femmes aussi. Continuons. Embrayons.
Oui, mais là, je voulais faire un clin d'œil à moi et à Marceau comme un contrôleur.
On a toujours été avec des femmes insensibles, Matt.
Ah, ouais. On est incompris.
on aime la sensibilité maintenant. Ouais.
Oh, pour ceux qui sont propriétaires de Fiat 500, là, les nouveaux modèles de Fiat 500, c'est des modèles qui sont fiables, c'est des bons petits véhicules, une belle expérience de conduite. Est-ce que, eux, leur voiture prend de la valeur ou, au contraire, on perd de la valeur?
Non, pas ici, pas de notre côté. Il ne faut pas oublier que si on regarde les dernières publicités qu'on voit dernièrement aussi constamment, c'est la fameuse Fiat 500e, là, donc la électrique, et c'est bien entendu de elle qu'on parle là, par rapport à la suspension dans l'usine là, de Mirafiori, donc près de Turin. Et pourtant, la publicité elle a quand même un petit côté qui est intéressant. Hein? Donc, une jolie madame... quasiment, ben là, vous m'excuserez les marques, là, je ne suis pas Jean-Héroldi, mais là, en Prada ou en Gucci. C'est-tu pas mal ça, Pascal?
Ouais.
Ouais, OK, parfait. Donc, jolie, belle prestance, qui donne ses clés de sa Fiat 500e au valet parking et qui, lui, part dans une aventure extrêmement, imaginée au volant du véhicule et qui vit sa plus belle vie. Je vais être franc avec vous, je préfère le Nookie, là, je pense que c'était ça. Non, Limp Bizkit, là, c'est pas Nookie, mais il y a un vidéoclip qui pond Rolling Partner et lui, il part sur toute une ride avec les véhicules. Je préfère un peu plus lui ou encore moi-même Ferris Bueller là, qui emprunte le véhicule. Mais la publicité est quand même intéressante, elle a fait beaucoup jaser, mais vous voyez, ça ne crée pas d'impact. Donc, présentement, on arrête. On n'a pas de commande, on arrête la production et je pense que ce n'est pas très, très le fun pour un manufacturier de dire « Écoute, il faut qu'on arrête ça » parce que dites-vous que ça a coûté aux environs de 100 millions d'euros pour doter aussi cette Fiat 500e-là du côté de la nouvelle batterie haute puissance et non seulement d'intensifier aussi sa production. Donc, 100 millions d'euros pour un véhicule et que là, on est en train de ralentir et quasiment de mettre ça à la poubelle. Ouch! Il va y avoir quand même une version hybride qui devrait se pointer le nez du côté des années 2025-2026. Mais encore là, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ici, ce n'est pas très, très populaire. Est-ce que c'est plus populaire de l'autre côté de l'océan? Probablement. Mais dites-vous que c'est quand même un des véhicules électriques les moins chers qu'on offrait sur le marché et personne n'a sauté sur l'occasion.
Matt, en terminant, la compagnie de Ken Block est en faillite. Qui l'eût cru?
Oui, qui l'a cru, effectivement. Et là, quand on va parler de Ken Block, vous vous rappelez sans doute de Hoonigan en tant que tel. C'était tout ce qui était... Ken Block représentait tout ce qui était le lifestyle aussi qui était associé à ça. On se rappellera de Ken Block pour tous ces Gymkhana. Mais il ne faut pas oublier que Hoonigan aussi, c'était Pro Wheels. C'était American Racing, TSW, majoritairement aussi avec une compagnie de roues, si on veut. Et on parle des dettes qui sont de 1,2 billion de dollars américains, donc 1,2 milliard aussi au travers de tout ça. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Cette compagnie-là remontait aux alentours des années 2010 et avait fait quand même un tollé sur tout ce qui était YouTube, tout ce qui était GoPro aussi, tout ce qui était le côté Hoonigan un peu. Puis rappelez-vous aussi, Ken Block, c'était quoi? C'était DC Shoe, le lifestyle un peu quand même aventurier aussi au travers de tout ça. Donc, c'est peut-être pas tout de suite la fin pour Hoonigan, mais encore là, on a hâte de voir le plan, on a hâte de voir le plan de redressement. Mais dites-vous aussi qu'il y a des compagnies présentement là, qui sont qui étaient dans le monde du tuner, qui sont frappés présentement par une baisse des ventes, doivent se restructurer et ça commence à faire mal. Et même des compagnies comme Cobb, tu sais, qui étaient des programmeurs donc de véhicules un peu plus sportifs comme Subaru, présentement font face à des poursuites de l'EPA. Ça coûte une fortune parce que justement leur programmation enlevait comme un peu le respect des normes environnementales par rapport à leurs véhicules. Donc, je vous le dis, ça se peut que les compagnies tuner en mangent pour leur argent, comme on dirait, au courant des prochaines années. Ça risque de faire mal encore.
Quelqu'un qui me pose la question, sans raison de son décès que la compagnie est aussi endettée?
Ben, faut faire attention. Hein. Ken Block était probablement pas la personne qui gérait chacune des décisions au sein du conseil d'administration, mais c'est sûr qu'il était l'image d'une génération idolâtrique qui s'affichait un petit peu comme lui. Et je vous le dis, pour l'avoir rencontré au Grand Prix de Trois-Rivières, ça faisait la file, c'était une rockstar. Donc, quand une tête qui est une rockstar, c'est capable de bien vendre le produit. Et c'est sûr qu'un départ comme ça va peut-être créer un peu de détachement au travers du temps avec les fans qui sont hardcore, là, comme on dit. Mais est-ce que la compagnie va être capable de se relever? J'ai hâte de voir, mais on va suivre ça quand même de très près. Et ça nous rappelle un petit peu Ray Caro qu'on a parlé dernièrement, sans oublier aussi les roues BBS.
Pour te voir et t'entendre, on peut te suivre à quel endroit si on est adepte du merveilleux monde de l'automobile?
Et on s'en va sur YouTube, la page Facebook de Questions Auto. Allez aussi tout simplement faire un petit tour sur le YouTube, encore une fois aussi, qui est quand même bien populé de vidéos. La dernière vidéo, je crois qu'on a mis, c'est au niveau de comment ajuster le régulateur de frein électronique.